Chers amis, oui, c'est toujours une joie de pouvoir vivre ces cultes avec vous, et j'en suis reconnaissant aussi pour aujourd'hui. Et j'aimerais que nous puissions, ce matin, réfléchir ensemble sur la question du pardon. Il n'est pas difficile de faire le pont avec l'anniversaire de la Réformation, ce 31 octobre. Voilà, c'est 499 ans. Alors, l'année prochaine, ça sera une grande année pour toutes les églises protestantes. Effectivement, ce désir de pardon a habité Luther pendant bien des années, quand il était là, moine, au fond de sa cellule, qu'il, chaque matin, voilà, se donnait un petit peu la question pour essayer de gagner le ciel. Il était préoccupé très, très fort par ce désir de pardon. Et après des années de recherche, et notamment en préparant son cours sur l'Épître aux Romains, parce que voilà, on peut se, comme on dit, convertir en préparant un cours, n'est-ce pas ? Ça a été son cas. Il faisait face donc à ce verset 17 du chapitre 1er, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, la justice de Dieu s'y révèle. » Alors là, c'était la pierre d'achoppement. Comment est-ce que, au centre de l'Évangile, la révélation de l'Évangile, c'est la justice de Dieu? Ça, c'est pas une bonne nouvelle, n'est-ce pas? La justice de Dieu. Comme notre frère l'a dit tout à l'heure, cette épée de Damoclès au-dessus de chaque tête d'être humain, n'est-ce pas, la justice de Dieu. Et en y réfléchissant, il a réalisé qu'il ne s'agissait pas de la justice punitive de Dieu, mais de la justice dont il nous revêt, n'est-ce pas, la justice dont il nous revêt quand, par la foi, nous mettons toute notre confiance dans le sang de Jésus qui a coulé à la croix et que nous vivons un véritable pardon, comme nous l'avons si magnifiquement chanté et rechanté depuis le début de ce culte. Alors pour lui, ça a été une transformation. Il a compris enfin ce verset, la justice de Dieu s'y révèle, cette justice qu'il nous accorde quand nous vivons pleinement le pardon, n'est-ce pas? Et pour lui, c'était quelque chose, n'est-ce pas? Dans l'introduction à l'Épître aux Romains, il dit « Le paradis s'est ouvert pour moi ». Et c'est cette joie qu'il a habité, cette découverte, l'a conduit dans la suite de sa vie à travers toutes sortes d'événements. Et puis ça a fait tache d'huile, n'est-ce pas? Ça a été un petit peu comme l'allumette qui a mis le feu aux poudres et qui a conquis en quelque sorte et transformé et bouleversé notre vieille Europe. Donc ce pardon découvert, ce pardon reçu, ce pardon vécu, c'est quelque chose de magnifique. Et j'espère que nous avons tous fait cette expérience, et si ce n'est pas le cas, alors c'est le moment ou jamais, n'est-ce pas? C'est le moment ou jamais. Alors le pardon, qu'on découvre, le pardon qu'on reçoit, c'est magnifique. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait de ce pardon-là dont j'aimerais parler ce matin, n'est-ce pas? C'est déjà quelque chose, un beau programme, n'est-ce pas, que de bénéficier du pardon de Dieu et aussi des autres. Un beau programme, quelquefois un problème aussi. Est-ce que vraiment on m'a pardonné ou pas? Alors du côté de Dieu, on peut en être certain, mais du côté des hommes, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Ça peut devenir un problème. Mais il y a plus difficile encore, un problème plus grand, c'est le pardon que l'on accorde aux autres, n'est-ce pas? Le pardon que l'on donne ou que l'on devrait donner, qu'on devrait accorder aux autres. Comment vraiment pardonner le mal qu'on nous a fait, les injustices qu'on a subies. Les violences, les agressions peut-être. Comment pardonner? Ça, c'est quelque chose de difficile. Il y a des souffrances qui peuvent nous poursuivre pendant toute la vie. Il y a des blessures qui ne se referment pas. Et on vit avec, n'est-ce pas? Pendant des années, ça ne s'efface pas. Sans parler de ces souffrances-là, c'est peut-être le cas pour l'un ou l'une ou l'autre d'entre nous, il faut reconnaître que ce problème du pardon à accorder nous poursuit quotidiennement et peut quelquefois même empoisonner notre vie quotidienne. Le problème de relation avec nos proches, au travail par exemple, n'est-ce pas ? Toutes les petites vexations, les coups bas, voire même les plaisanteries qui se poursuivent, n'est-ce pas ? Tout ça, ça fait mal. Et quand ça se reproduit chaque jour, ça passe très très difficilement. Entre voisins, c'est pas toujours facile. Telle ou telle parole malheureuse qui a été prononcée, tel mauvais coup aussi. Comme on a du mal à pardonner cela, n'est-ce pas ? Et ça trouble une relation, et ça se poursuit, ça se poursuit. Au sein de la famille, c'est sans doute encore plus aigu, parce que ce qu'on pardonne à un étranger, entre guillemets, on ne le pardonne pas à un frère, à une sœur, n'est-ce pas ? Et pire encore, à un conjoint, par exemple. Ça, non. C'est pas possible, n'est-ce pas? Et il y a des petites choses qui font du mal et qui sont vécues comme de véritables blessures et dont on n'arrive pas à se débarrasser, n'est-ce pas? Alors, que faire? Comment vraiment s'en débarrasser? Comment vraiment guérir de ce genre de blessures? Alors, voilà, il faut pardonner. Et ça, c'est vital, c'est indispensable. Tous les vieux couples vous diront qu'il faut savoir pardonner, n'est-ce pas ? Les témoignages sont nombreux à cet égard, et c'est assez frappant, n'est-ce pas ? Il faut savoir pardonner. Alors, bien sûr, la Bible a beaucoup à dire à ce sujet, n'est-ce pas ? On s'en doute. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions apporter quelques petits éclairages sur ce problème qui est un problème parfois douloureux. Et j'ai pensé à un texte de l'Épître aux Colossiens au chapitre 3 et au verset 13. C'est un texte qui m'a longtemps pesé, n'est-ce pas ? C'est un texte magnifique, mais difficile. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous de même, faites-vous grâce. Alors voilà ce verset. C'est clair, c'est net. J'aimerais relever deux verbes qui sont importants dans ce passage. Et le premier, c'est supporter. Supportez-vous les uns les autres. Alors, supporter, c'est plus que de dire « Oh, c'est rien, ça passera », n'est-ce pas ? C'est un moyen de se débarrasser du problème que nous avons soulevé. Mais c'est vite dit, n'est-ce pas ? Non. Si on doit supporter, c'est que il y a quelque chose de lourd et qui pèse, n'est-ce pas ? Ce passage fait allusion aux plaintes. C'est quand on a à se plaindre d'un autre ou de quelqu'un d'autre. Et reconnaissons qu'il y a des situations qui sont quelquefois difficilement supportables. Même le Seigneur Jésus, vous vous en souvenez, a une fois dit à ses disciples, race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Alors, si nous vivons des situations insupportables, ça peut arriver, le Seigneur lui-même les a vécues avant nous, n'est-ce pas? Donc, ça peut arriver. Supportez-vous, c'est sérieux, c'est lourd, n'est-ce pas? Ça veut dire tenir bon sous le choc, sous le poids, n'est-ce pas? Alors, reconnaissons que c'est déjà un signe de maturité, n'est-ce pas? Ce sont les enfants qui, au supermarché, se roulent par terre, crient, font des scandales parce que la maman ne veut pas leur acheter telle barre chocolatée ou que sais-je encore, n'est-ce pas? Ce sont les enfants qui font ça, ce ne sont pas les adultes, bien sûr. Donc, supporter, c'est déjà un signe de maturité. C'est ce qu'on peut dire face à ce passage, mais aussi remarquer qu'il y a ce « supportez-vous les uns les autres, faites-vous grâce réciproquement ». Alors on peut se dire que supporter, essayer de tenir bon, de tenir le coup, malgré une situation qui peut apparaître comme insupportable, non seulement c'est faire signe, c'est montrer de la maturité, mais aussi se dire que si nous devons supporter les autres doivent aussi nous supporter nous-mêmes, n'est-ce pas? Et dans l'affaire, on ne sait pas toujours quel est le plus insupportable. Pour nous, c'est toujours l'autre, mais ce n'est pas forcément le cas, n'est-ce pas? C'est toujours réciproque. Alors, voilà, les autres doivent aussi me supporter. Supportez-vous les uns les autres. Il faut déjà prendre conscience de cela. Donc, c'est le premier verbe, supporter. Et le deuxième, c'est faites-vous grâce. Faites-vous grâce réciproquement. Alors, qu'est-ce que c'est faire grâce? Voilà. Il y a un sens qui existe, qui est employé souvent dans la Bible, mais qu'il faut, je pense, écarter ici. C'est la gentillesse. La bonté, n'est-ce pas, la bienveillance, c'est déjà quelque chose quand, face à une vexation ou bien à quelque chose qui n'est pas agréable, on reste gentil, plein de bonté, n'est-ce pas, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. La tendance, c'est plutôt le contraire, n'est-ce pas? Mais dans ce passage, et très souvent dans la Bible, le verbe « faire grâce » est beaucoup plus fort, n'est-ce pas? C'est faire grâce à quelqu'un qui ne mérite pas du tout la grâce. Dans l'Évangile nous est rapporté une histoire où Jésus est invité par un pharisien à table. Et pendant qu'il était à table, voilà qu'une femme de mauvaise vie s'approche et se tient au pied de Jésus et commence à pleurer, à pleurer, à pleurer, tellement que les pieds de Jésus sont trempés. Alors elle essuie ses pieds avec ses cheveux et puis verse du parfum dessus. Alors le pharisien qui était là était absolument scandalisé. Il a dit, mais si cet homme était un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, n'est-ce pas? Et il ne la laisserait pas faire en quelque sorte. Alors Jésus, qui avait deviné ses pensées, ça lui arrivait souvent, de deviner les pensées des autres, a commencé à lui raconter une petite histoire. On trouve cela dans l'Évangile de Luc, au verset 41 et 42. Voilà, il a dit, voilà, vous savez, ce sont des histoires qui semblent tout à fait intéressantes et innocentes. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel l'aimera le plus? Voilà. Ça, c'est la grâce de la remise de dette. C'est un problème dans la société où nous vivons, où presque tous nous avons fait un emprunt, n'est-ce pas? Et il y a des personnes, hélas, qui se laissent surprendre et qui sont surendettées, n'est-ce pas? Alors, bon, on essaye d'arranger les choses, on fait des plans de remboursement, etc., pour essayer de les sortir de cette affaire. Mais là, ce n'est pas du tout le cas, n'est-ce pas ? La dette est remise parce que, tout simplement, la personne est insolvable. Elle ne peut pas payer 500 deniers ou 50, elle ne peut pas payer, pas payer. La dette est complètement remise, n'est-ce pas ? On ne doit plus rien. Imaginez la chose. Non, c'est fini. Tout est payé, vous ne devez plus rien. C'est quelque chose de très fort, quelque chose d'absolu, n'est-ce pas ? Et l'image, enfin, la comparaison qui est faite, c'est comme Christ vous a fait grâce. Il y a un passage dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 32, qui évoque cela. « Soyez bons les uns avec les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ, n'est-ce pas ?» Donc, ce n'est pas seulement de la bienveillance et de la gentillesse, ce qui est déjà beaucoup. Dieu nous a fait grâce en Christ. C'est la grâce absolue, la grâce du condamné à mort. Vous savez qu'autrefois, en France, la peine de mort existait. Mais le président de la République avait droit de grâce et régulièrement, tous les dossiers des condamnés à mort défilaient sur son bureau. Et là, seul, il pouvait décider la grâce d'un tel qui restait en prison, mais enfin, qui avait la vie sauve. Et puis, un tel, lui, eh bien, était victime de la peine capitale, n'est-ce pas ? Il pouvait le décider. Et personne ne pouvait discuter ce droit de grâce. Et ce droit de grâce est lié à la souveraineté. Représentant la souveraineté de la nation, il avait droit de grâce, n'est-ce pas ? Et Dieu a droit de grâce, dans ce sens. Il peut faire grâce à quelqu'un qui mérite la mort, n'est-ce pas ? Et Dieu le fait. C'est de cette grâce-là que nous bénéficions. C'est cette grâce-là que nous avons chanté tout à l'heure. Alors vous voyez que la barre est placée très haut. Remettre une dette. Tu ne dois plus rien, c'est effacé. Tu mérites la mort, mais je choisis, pour des raisons qui me sont personnelles et dont personne n'a discuté, représentant la souveraineté nationale, je choisis le fait que tu restes en vie, n'est-ce pas ? Là, comme le Christ vous a fait grâce, faites-vous grâce réciproquement. Qu'est-ce que ça veut dire ? En ce qui concerne le pardon que nous devons accorder aux autres. Vous voyez que le problème est vraiment compliqué, n'est-ce pas ? Il est très complexe. Je pardonne, mais je n'oublie pas, n'est-ce pas ? Je pardonne, mais... Bon, mais... Vous voyez ? Ce « mais », là, il est de trop. Je pardonne, tout est effacé. Il n'y a plus rien qui trouble notre relation. Le pardon est total. Et cette femme qui pleurait aux pieds de Jésus a reçu ce pardon-là, total. Et pour elle, c'était quelque chose. Pour le pharisien, c'était encore une autre histoire, n'est-ce pas ? Alors là, j'avoue, le premier, que nous sommes vraiment dépassés par cette notion de pardon. Supporter, c'est déjà beaucoup, mais alors pardonner comme ça, effacer complètement la dette, comment faire ? Comment cela est-il possible ? Alors nous devons aller un petit peu plus loin dans le passage. En fait, ce verset 13 de Colossiens 3 n'est qu'un bout d'une phrase. Et il faut reconstituer l'ensemble de la phrase écrite par l'apôtre Paul. Donc nous allons examiner maintenant Colossiens chapitre 3, verset 12 jusqu'à 14. Voilà la phrase. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. » Mais par-dessus tout, revêtez-vous, mais alors vous voyez que je l'ai mis le revêtez-vous entre parenthèses, parce que dans le texte original, le verbe n'est pas répété, n'est-ce pas? C'est le verbe qui est tout au début. Par-dessus tout, de l'amour qui est le lien de la perfection. Voilà cette immense phrase avec ce verbe si important, revêtez-vous, et que nous allons considérer parce qu'il semble bien qu'il y a là une clé pour le pardon. Se revêtir de quelque chose. Parce que effectivement, on ne peut pas y arriver tout seul, tout nu, en quelque sorte, n'est-ce pas? On a besoin d'éléments extérieurs pour faire face à ce grand problème. Vous savez que pour n'importe quelle tâche ou projet un peu difficile, on a besoin de tout un équipement. S'il faut faire de la plongée, par exemple, évidemment, on peut faire de la plongée en apnée, mais on a quand même besoin d'un tuba, d'un masque, et puis éventuellement aussi de palmes, n'est-ce pas? Mais si on veut faire de la plongée prolongée et profonde, il faut en plus une combinaison, il nous faut des bouteilles, n'est-ce pas? On ne peut pas y aller comme ça, tout seul, simplement, en caleçon de bain, n'est-ce pas? Ça ne suffit pas. On a besoin de tout un matériel. Si on veut faire de la montagne au-delà de 2000, 2005, 3000 mètres et plus haut, on a besoin aussi d'un équipement. On ne peut pas y aller en basket et puis en t-shirt, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Il faut des chaussures spéciales, il faut un anorak, etc. À la limite, il faut aussi des cordes, il faut des crampons, il faut un piolet. On a besoin de matériel, n'est-ce pas? On peut être très fort en mécanique auto, mais si on n'a pas la boîte à outils qui convient, et encore aujourd'hui, il faut un banc pour d'essai, etc. On ne peut rien faire, même si on est très fort en mécanique auto. On a besoin d'outils extérieurs. Il faut se revêtir, entre guillemets, de quelque chose. Alors, dans ce texte, de quoi avons-nous besoin pour faire face à cette tâche, à ce projet qui nous dépasse infiniment, n'est-ce pas? Plus que de conquérir les hauts sommets, pouvoir pardonner. Eh bien, il y a déjà 5 vertus indispensables. Vous le voyez là dans le verset 12. Revêtez-vous d'ardente compassion. Dans l'ancienne traduction second, les plus anciens se souviennent, c'était « revêtez-vous d'entrailles de miséricorde ». Alors on a quand même arrangé un peu, ça c'était la traduction littérale. Mais vous voyez, hein, voilà. Quand on est devant des vexations, de mauvaises plaisanteries, même de la méchanceté, comment est-ce qu'on peut être saisi aux entrailles, avoir pitié de la personne? Et pourtant, on sait très bien que les personnes agressives, c'est des personnes qui souffrent, n'est-ce pas? Et que c'est souvent l'expression d'une souffrance, peut-être d'une souffrance très ancienne. On le sait, tout ça, intellectuellement. Mais comment est-ce qu'on peut être pris de pitié, de compassion devant celui qui nous fait du mal? Alors, on en a besoin quand même, n'est-ce pas? On a besoin d'aller plus loin et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ardente compassion, bonté, humilité aussi. C'est pas parce qu'on souffre qu'on a forcément raison et qu'on est meilleur que l'autre. D'humilité, de douceur et de patience, n'est-ce pas? Et ces vertus indispensables qui doivent nous animer, dont on doit se revêtir, sont résumés en quelque sorte par le verset 14, par-dessus tout, de l'amour, qui est le lien de la perfection. C'est un petit peu comme une marguerite, n'est-ce pas? Vous avez les pétales et puis vous avez le centre, n'est-ce pas? Voilà, ces 5 vertus qui sont résumées, on lit la gerbe en quelque sorte, par ce mot d'amour. Et nous savons très bien que ce mot, dans le Nouveau Testament, est très spécial. C'est le mot « agapé », n'est-ce pas ? Et ce mot qui a été choisi par les auteurs du Nouveau Testament, très peu employé dans la langue grecque commune, n'est-ce pas ? Tellement exceptionnel, c'est « aimer même ce qui n'est pas aimable ». Et ça, c'est bien le cas, n'est-ce pas ? Cette personne n'est pas du tout aimable. Et puis, il faut l'aimer. Il faut pouvoir être animé d'amour à son égard. Voilà. Je vous ai dit tout au début que ce texte, pendant toutes ces années dernières, m'a souvent écrasé. Il y a de quoi, n'est-ce pas ? C'est si beau, si vrai, mais ça paraît tellement impossible, impossible. Où trouver ces outils ? Comment s'en revêtir ? Comment revêtir cette combinaison indispensable pour réaliser cet exploit ? Comment faire, n'est-ce pas ? En tous les cas, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas en nous-mêmes. Le vêtement, c'est quelque chose d'extérieur à nous, que l'on revêt, dont on a besoin. Ce n'est pas en nous-mêmes que nous pouvons trouver toutes ces ressources indispensables. Alors, en bonne méthode, face à un texte biblique, élargissons encore un petit peu le texte et examinons les versets 9 et 10 et 11, voilà, juste avant. Et nous trouvons ce verbe « revêtir ». Donc c'est intéressant. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Voilà ce passage. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Voilà, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et puis cette affirmation, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Donc nous avons ce verbe « revêtir » qui est repris après dans les versets que nous avons examinés, n'est-ce pas ? Alors vous voyez que c'est plus qu'une question de simple vêtement. C'est beaucoup plus intérieur. Il faut un changement de nature. C'est indispensable. Une nouvelle création, comme le dit un autre passage, n'est-ce pas ? Une recréation, on ne peut pas y arriver autrement. Il faut qu'on puisse changer complètement, intérieurement. Pas simplement mettre quelque chose de superficiel. Vous savez, extérieurement, on peut toujours répondre par un sourire, oui, enfin voilà, essayer d'être gentil, voilà. Mais intérieurement, ça peut bouillonner et le problème n'est pas du tout résolu, n'est-ce pas ? Il faut quelque chose de beaucoup plus profond, n'est-ce pas ? Et ce verset 11 est surprenant. Devant ce problème, qui est un problème universel, nous sommes tous sur le même niveau, n'est-ce pas ? Là, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni barbare, n'est-ce pas ? Ni scythe, ni esclave, ni libre. Et ça voulait dire quelque chose dans la société où vivait l'apôtre Paul. On est tous sur le même plan. Il y a une seule chose qui est vraie, une seule réalité. C'est Christ qui est tout et en tous. Voilà ce que je lis à la fin de ce passage. Christ est tout et en tous. Il y a donc un lien entre le verbe « revêtir » et puis le Christ d'après ces passages, n'est-ce pas ? Et effectivement, sous la plume de Paul, c'est tellement extraordinaire, n'est-ce pas ? Il fallait vraiment que Paul soit inspiré pour pouvoir mettre noir sur blanc ces choses-là, n'est-ce pas ? S'exprimer de cette façon, on touche quelque chose d'insaisissable, d'extraordinaire, de magnifique. Deux fois, sous sa plume, on trouve l'expression « se revêtir de Christ » dans deux passages. Le premier, c'est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, les versets 26 à 28. Vous verrez qu'il y a des parallèles avec le passage que nous examinons. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il y a une synthèse, là, de ce que nous avons vu. Et puis, le même passage. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Alors, il y a toutes sortes d'approches de ce passage, n'est-ce pas ? Mais dans le cadre du problème que nous avons soulevé, qu'est-ce que ça veut dire ? En tous les cas, il y a un lien entre le baptême et revêtir Christ. C'est vrai que le baptême, c'est un rituel d'identification, en quelque sorte. Quand nous sommes baptisés, plongés dans l'eau, nous nous identifions à Jésus lui-même, qui est mort et ressuscité. Et nous-mêmes, symboliquement, nous mourrons là, au fond de l'eau, n'est-ce pas ? Si on nous y laissait, il n'y en aurait pas pour longtemps. C'est une sorte de mort symbolique. Et puis nous sortons de l'eau. Si vous avez vécu cette expérience, vous savez quelle joie, quelle libération quand on sort de l'eau, n'est-ce pas ? C'est la résurrection, l'identification même au Christ, n'est-ce pas ? Alors, le deuxième passage, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, et les versets 13 et 14. Là, il s'agit vraiment d'éthique, de conduite, n'est-ce pas ? Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Donc, cette expression qui pourrait paraître très mystique, elle est très basique, n'est-ce pas ? Il s'agit de la vie quotidienne, il s'agit de la conduite, se revêtir de Christ. On pourrait peut-être réfléchir à cette symbolique du vêtement, à ce rôle du vêtement. Pourquoi est-ce qu'on s'habille ? On peut distinguer trois rôles au vêtement. Le premier, Genèse chapitre 3, n'est-ce pas ? C'était de cacher la honte de la nudité. Adam et Ève ont tout d'un coup découvert qu'ils étaient tout nus. Bon, quelle affaire, n'est-ce pas ? Ils étaient seuls au monde. Mais vous voyez, c'est le mal trouble tout, même les choses les plus belles, les plus naturelles. Les animaux n'ont pas honte d'être nus, n'est-ce pas ? Mais tout à coup, Adam et Ève ont découvert qu'ils étaient nus. Alors le Seigneur lui-même les a revêtus d'habits de peau, n'est-ce pas ? Donc le vêtement cache notre nudité, notre honte, si on l'applique à notre problème. C'est, ben oui, il n'y a pas de quoi être très fier. De ne pas prendre ses distances par rapport à certaines vexations ou méchancetés, n'est-ce pas ? De ne pas faire preuve de toute la maturité dont on devrait faire preuve. En Jésus, nous sommes pardonnés. Alors, on peut culpabiliser dans ces affaires-là, surtout si l'on est un chrétien, et en plus, un chrétien depuis pas mal d'années, parce qu'on sait très bien ce qu'on devrait faire, mais on n'y arrive pas. Mais le Seigneur nous pardonne, n'est-ce pas ? Et c'est un vrai pardon. Il n'y revient pas. Il a remis la dette. Se revêtir de Christ, c'est déjà vivre cette libération. Le Seigneur nous pardonne totalement et pleinement. On rétablit une relation harmonieuse avec lui en tous les cas. Alors, l'autre rôle du vêtement, c'est bien sûr de nous protéger du froid ou de la chaleur ou que sais-je encore. Voilà, de nous armer en quelque sorte contre le monde hostile qui nous entoure ou nous donner la possibilité de réaliser de grandes choses comme de grimper en haut de cette montagne ou de plonger dans ces abîmes ou encore, que sais-je, n'est-ce pas, se revêtir. Et ça, le Christ lui-même, quand nous nous en revêtons, quand par la foi nous nous attachons à lui, nous accorde cette force, n'est-ce pas, de faire face à ces difficultés et nous donnera lui-même cette compassion dont nous avons besoin, cette intelligence pour comprendre ce qui se passe, n'est-ce pas ? Cette force pour prendre le recul nécessaire, c'est lui qui nous l'accordera. Ça, c'est un vêtement, n'est-ce pas, que celui du Christ. Et lui seul peut nous l'accorder. Alors, un troisième rôle du vêtement, c'est en quelque sorte de qualifier quelqu'un, n'est-ce pas ? C'est une sorte de statut, un vêtement. Voilà. On ne s'habille pas de la même façon pour aller faire du sport ou bien pour aller à un entretien d'embauche, par exemple, n'est-ce pas ? Ou aller voir le député ou un ami, n'est-ce pas ? Le vêtement qualifie. Et vous avez remarqué dans tous ces passages qu'ils débutent tous un peu de la même façon. Dans Colossiens 3, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, n'est-ce pas ? » Et dans l'Épître aux Galates aussi, nous avions une expression proche. « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. » Alors, revêtez-vous, n'est-ce pas ? En somme, se revêtir du Christ fait de nous des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi, se comporter comme tout le monde, n'est-ce pas ? Réagir de telle ou de telle façon. On est marqué, on est qualifié, on est élu, on fait partie de la famille de Dieu, on est bien-aimé du Seigneur. Alors, ça change aussi notre conduite, n'est-ce pas ? Alors voilà, je suis devant ce problème, comment guérir du mal qu'on m'a fait ? Comment cicatriser ces blessures ? Comment vont-elles se refermer ? Comment faire face à la difficulté de relation avec cette personne ? Eh bien, pardonner. Et pardonner, c'est se revêtir chaque matin de Jésus-Christ. Expression très mystérieuse, mais nous avons essayé quand même de voir un petit peu plus clair. Ce n'est qu'un éclairage. Mais se revêtir chaque matin de Jésus-Christ, c'est lui qui va couvrir la honte de mes mauvaises pensées, de mon amertume. C'est lui qui va me protéger des coups, qui va me rendre plus fort pour y faire face, n'est-ce pas ? Ces coups d'aujourd'hui, mais ces coups d'hier aussi. C'est lui aussi qui fait de moi un enfant de Dieu, saint et bien-aimé, dont il prend soin et qui me donne la force de faire face à cette situation, la force surhumaine qu'il faut pour y faire face, n'est-ce pas ? Parce que pardonner, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, il faut être très fort pour pardonner et remettre totalement la dette, n'est-ce pas ? Il faut pouvoir le faire. Et c'est lui qui me donnera compassion, compréhension aussi pour aller jusqu'au pardon, se revêtir de Christ. Dans les textes, en tous les cas, tout cela est loué, est lié et devrait nous faire réfléchir. Et par-dessus tout, c'est le moment de voir le verset 15 de notre passage qui conclut ce passage de Colossiens. Par-dessus tout, voilà, en cadeau, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Voilà, la paix intérieure, ça c'est un bien très très précieux dans ces situations. Et puis aussi la reconnaissance, et nous avons de quoi être reconnaissants. Prions ensemble. Seigneur, c'est vrai que nous sommes dépassés par ces paroles que nous avons du mal à considérer tous ces enseignements. Mais Seigneur, donne-nous de les intégrer, donne-nous de les vivre par la foi. Si tu es mort sur la croix, si tu as subi tant de souffrances, c'est pour que nous soyons pardonnés, c'est pour que nous soyons aussi transformés, Seigneur. C'est pour que nous puissions faire face à ces situations difficiles, que nous puissions aussi guérir ce qui semble impossible à guérir. Fais ton œuvre, Seigneur, dans nos cœurs. Aide-nous à nous attacher à toi par la foi, à t'aimer par-dessus tout, à ne revêtir de toi chaque jour, chaque matin, pour faire face à la vie telle qu'elle est. Seigneur, fais-nous cette grâce à chacun. Nous t'en prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.